L'aventure commence, ça y est, vous êtes en route pour Ozym, en bonne compagnie comme on l'a dit. Vous êtes donc en route pour Ozym. Devant vous, le désert miroitant. Pourquoi miroitant? Effectivement, ce n'est pas un désert comme les autres. C'est pas du sable qu'il y a sur le sol, c'est comme une espèce de poudre, de minuscules éclats de miroir, de verre réfléchissant. Le désert scintille littéralement de mille feux. Les Aberrats qui vous accompagnent vous ont tendu à chacun des espèces de lunettes, un peu comme les Fremen dans Dune, vous voyez. Ils ont des, vous avez des espèces de boules sur les yeux avec une petite fente pour éviter de, d'être aveuglé en fait par la lumière qui est ahurissante. Il y a la lumière qui vient du soleil, il y a la lumière qui est reflétée par le sol. Et parce que certains éclats de miroir sont plus gros que d'autres, certains sont vraiment des, vous aveuglent complètement. Et par ailleurs, à l'horizon, vous voyez danser paresseusement ou beaucoup plus vite des étranges structures de fer, de métal, qui sont comme des soleils en cage, des soleils artificiels. Et ça, c'est une chose dont vous avez déjà entendu parler, c'est assez célèbre. Il y a dans certaines régions du monde ces drôles de machines. Alors j'avais dit que vous ne les connaissiez pas, enfin que c'est la première fois que vous en voyez. C'est pas exact en fait, parce que Tibalt, toi, dans tes aventures précédentes, tu as déjà approché ces machines-là.
Tout à fait.
Et tu sais que ces machines, tu sais pas mal de trucs dessus.
Je sais ce qu'il y a à l'intérieur.
Et ce qu'il y a à l'intérieur, ou qui il y a à l'intérieur. On n'en dit pas plus parce que ça ne sert à rien, et puis peut-être que tu n'as pas forcément envie de tout partager. Voilà, tu as un vieux de la vieille, tu veux. Des petits jeunes, ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Sachant que vous vous aventurez dans cette fournaise, la chaleur est très difficilement supportable, mais le pire, c'est la lumière. Vraiment, si vous perdez vos lunettes, vous êtes foutu. Vous seriez perdu dans un éclat blanc perpétuel. Vous seriez complètement perdu. Donc, surtout, faites attention à vos lunettes. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez des questions sur les PNJ qui vous accompagnent? Est-ce que vous voulez vous rapprocher de quelqu'un en particulier? Est-ce que vous avez, voilà, vous voulez vous renseigner sur Ozym ou sur le chemin qui vous en sépare? Vous pouvez commencer là-dessus. On y va, je vous écoute.
Bah là, j'ai l'impression que Miniature, en tout cas celle qui se fait appeler Miniature, elle a l'air plutôt avenante. J'ai vu qu'elle trimballait avec elle pas mal de bouquins. Mm-hmm. Ça me laisse un peu circonspect. J'aimerais amorcer une petite approche pour qu'elle me parle un peu de ses ouvrages et qu'elle me dise à quoi ils vont servir.
Eh bien, très bien. Eh ben, elle est effectivement ravie de te voir venir. Elle a aussi payé pour avoir une petite monture lézardesque, là. Donc, elle est juchée sur son truc, elle a un peu de mal. Elle te voit arriver, elle est toute contente. Elle fait « Oui, bonjour, bonjour, venez par là, venez, on va discuter. » Alors, très vite, tu t'aperçois qu'elle parle, mais c'est une espèce de moulin à parole. Elle te raconte, avant même que tu poses la question, la plupart des choses que tu aurais voulu demander, ou même sur lesquelles tu n'aurais pas du tout posé la question. Alors, qu'est-ce que c'est que ces livres et qu'est-ce qu'elle compte en faire, c'est ça?
Ouais.
Elle dit, oui, j'amène les prophéties du Typhon, je crois qu'on a aussi les écrits sibyllins de Tariq le Sec. Donc, elle te fait une liste de trucs dont tu as jamais entendu parler. Elle dit, oui, il faut savoir qu'Ozym est une ville assez compliquée qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits contradictoires. Elle continue de parler. En fait, tu t'aperçois que malheureusement, son problème, c'est que les bouquins qu'elle a amenés mentionnent tous Ozym, mais pas tous dans la même dimension. C'est-à-dire que ça peut parler d'Ozym dans le futur, dans le passé, ou dans un autre monde alternatif, où il y a aussi une ville qui s'appelle Ozym. Donc en fait, elle essaie de recouper les informations, mais c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, elle a préféré venir avec toute la masse documentaire dont elle pouvait disposer.
Elle a fait une recherche mot-clé Ozym.
Exactement. Alors le problème, c'est que tu poses plein de questions, je sais pas, sur Ozym, ou sur des points qui peuvent te paraître obscurs, et en général, elle te répond quatre trucs différents. Elle n'a pas une vérité, elle a quatre vérités sur la même chose. Et tout est vrai dans des univers parallèles, alternatifs. Donc du coup, c'est pas toujours très utile.
Elle a conscience que c'est pas très utile.
Pas forcément.
C'est ça le problème.
Ouais, t'as l'impression qu'elle adore les virtualités, les possibilités, qu'elle a juste hâte de découvrir quelle est la bonne version dans ce monde-là, exactement.
Ok, Bah, je ressors avec un petit mal de tronche.
Et ouais, voilà, c'est bizarre, elle a un savoir très étendu, mais qui s'applique pas toujours à la dimension dans laquelle elle évolue. C'est, voilà, c'est une sorte de malédiction. Ouais, bah, elle te voit partir, et effectivement, t'es pas le premier à partir assez rapidement de son entretien.
Elle est encore en train de parler.
Mais tu peux quand même, si tu veux, écoute, pose une question. Moi, je vais lancer un D4. Il y a une chance sur 4 pour ce qu'elle te dit soit tout à fait vrai, et ça peut être un détail très important. Alors, quelle question t'as envie de poser ?
D'après elle, lequel de ces ouvrages serait le plus susceptible de nous aider ?
Ok. Je prends un chiffre dans ma tête. Ok. Elle te dit... alors, d'après ce que j'ai l'impression... Oui, le ciel est plutôt bleu dans cet univers. J'ai l'impression que la mer a tendance à rester plate. Elle dit... je mettrai pas ma main à couper, mais je dirais que la compilation des sages de l'émeraude peut avoir des fulgurances. Je vous le conseille. Donc, elle te le donne. Est-ce que tu
parles?
Elle te dit oui, mais elle te fait une fiche rapidement. Elle te le fait très rapidement, une fiche de bibliothécaire, elle a l'habitude.
Ok.
Voilà, elle te dit c'est 3 prêts maximum.
Sur 15 jours glissants.
La compilation des sages de l'émeraude, des écrits des sages de l'émeraude. Est-ce que tu t'embêtes à y passer du temps, sachant que tu pourras interagir avec personne d'autre? Tu y passeras une bonne partie de la journée et tu n'auras fait que feuilleter ce volume considérable, sachant que tu sais. Probablement en pure perte, parce qu'il y a seulement une chance sur 4 pour que ce soit valable.
Ouais, ouais. Non, je le fais pas maintenant, je le ferai quand j'aurai un moment.
Ok. Que fait Carline ?
Eh bien, moi, je vais taper la causette à Guzon.
Ah ah ! Donc, yes. Tu freines un petit peu ta monture.
J'ai une monture, moi.
Eh ben, tu peux aller à pied. Certains vont à pied, c'est beaucoup plus pénible.
Un cheval squelette.
Non, mais moi, je suis plutôt du genre à pas trop me faire chier, je pense que j'ai carrément une monture.
Tu as les moyens de la payer ? T'as combien de pièces d'or ?
10.
10, c'est pas suffisant, c'est 25 pièces d'or, le Zoffet.
Bon, bah, à pied, c'est pas si mal.
Ou alors, est-ce que tu sollicites l'argent d'un certain compère ? Après, il a pas de raison de t'aider, mais bon, puisqu'il a visiblement...
Ah non, mais moi, je laisse pas les gens à pied. Hein.
C'est vrai ?
Ben non.
Tu lui finances sa monture ?
Oui.
Ok, du coup, Carline, tu freines un peu des cas de fer, parce que, comme je disais, Guzon, il est en arrière du groupe. Et très vite, tu arrives à sa hauteur. Alors lui, il est à pied. Il n'y a pas de monture, il fait des grandes enjambées, il a une sorte de respiration haletante, comme ça, quand tu t'approches, tu sens que c'est très bizarre, on dirait une grosse machine, tu as l'impression que tu as des gros poumons qui se gonflent, comme ça. Il arrive, il est haletant, il fait « Ah, bonjour, venez près de moi !» Et il est un peu flippant, comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais ?
Alors, même si l'eau se fait rare, je lui donne un peu de mon eau.
Ouais, alors l'eau se fait rare, c'est Odeline qui vous arrose. Hein. Elle a des hectolitres cubes dans ses ballons. Elle en préserve une partie pour la caravane. Ça fait partie du paiement des... Parce qu'elle voyage à 60 personnes, quand même. Hein. Elle utilise un petit peu des réserves, des ballasts, de ses dirigeables. Même ça paye, en fait, leur traversée dans l'expédition. Donc, je lui donne un petit peu de ton eau ?
Ouais.
Ok. Et bah, lui, il avait pas trop eu le droit à la distribution d'eau, effectivement. Et tu vois un tout petit peu un bout de son visage, parce qu'il est vraiment caché par sa capuche. Mais tu vois comme une esquisse de sourire ou de reconnaissance. Il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant dans son apparence.
Est-ce que justement je discerne une particularité physique ?
Ah, et ben écoute, tu vas discerner la réalité, tu vas lancer 2d6 plus sagesse.
Ok.
Ça fait 9.
Hein ? 9.
Ok, ben ça va suffire, effectivement. Il renverse sa tête en arrière pour boire, il s'arrose un peu le visage de ton eau. Il boit. Et tu vois qu'il y a quelque chose de bizarre, t'as l'impression que son visage n'est pas fait comme il faudrait. T'as presque l'impression qu'ils sont plusieurs là-dessous, tu vois. Comme si t'avais plusieurs têtes ou plusieurs yeux, plusieurs mentons, plusieurs bouches, trucs comme ça.
Ok. j'essaie d'en savoir plus, je demande d'où il vient. D'où venez-vous ? Je précise bien vous. Hein.
Ah, il dit de plus de nulle part maintenant. Il y a tellement longtemps que ma patrie n'existe plus. J'erre sur le monde comme une âme en peine, à la recherche de bonnes histoires.
Et c'est pour ça que vous êtes ici, pour avoir de bonnes histoires à raconter ?
Oui, mais vous-même, vous en serez une composante essentielle.
C'est-à-dire ?
Le refrain ?
C'est-à-dire que nous avons une amie en commun.
Je peux savoir de qui vous parlez ?
Je fais juste un petit ricanement sinistre.
Ok, mais je vais rejoindre la caravane. Je
dis, venez me voir ce soir, je vous jouerai un petit peu de musique.
Oui, c'est ça, ouais, on va jouer de la musique, tu vas voir.
Ok. Donc, tu pars vexé ? T'as l'air vexé ?
Non, absolument pas.
Ah, ok, d'accord.
Non, bien sûr.
Eh ben, du coup, je me tourne vers Luck. Comment est-ce que Luck s'occupe, lui, là ? On n'a pas parlé, tu as des gens à gérer, toi, quand même. Parce que tu fais pas l'expédition tout seul.
Et non.
Et non, on transporte pas 50 000 pièces d'or tout seul.
C'est clair. Généralement, dans tous mes voyages, je suis accompagné des quatre mêmes personnes. Mm-hmm. Donc, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est mon frère, mon garde du corps, on va dire, et mes banquiers, plus ou moins. À chaque fois que je trimballe de l'or, en fait, d'accord. Ils sont là. C'est okay. Eux qui gèrent toute
donc
la fortune.
Donc, c'est des comptables et des convoyeurs de fonds.
Exactement.
Ok, d'accord. Alors, ton frère, comment il s'appelle ?
Mon frère s'appelle Grim.
Ok, il est comment ? C'est ton petit frère, ton grand frère ?
C'est mon petit frère. Ouais. Et et donc c'est mon petit frère qui est gentil et en fait qui veut vraiment m'accompagner pour m'aider en fait dans toutes mes aventures.
Ouais. Il est compétent ou il est un peu dans tes pattes?
Non,
pas trop.
Dans mes pattes. Mais après ça lui fait tellement plaisir.
D'accord.
Que je suis obligé de lui dire oui tout le temps.
Est-ce qu'il a tendance à se mettre dans des situations dangereuses?
Un peu.
Super. Ok, génial. Alors il faut savoir que ce jeu, c'est comme tous les jeux Powered by the Apocalypse, PBTA, il est génératif, c'est-à-dire que j'ai des grandes lignes de scénario, mais c'est principalement le résultat de vos jets qui donne une direction à l'intrigue. Et en fait, dès que vous ratez un jet, moi je peux utiliser les faiblesses de vos personnages, leur possession contre vous. Donc là, je le vois très bien. Okay, il s'appelle Grim alors.
Grim, okay. Et il est bègue, c'est sa particularité.
Ah ok, donc un jeune un peu naïf, un peu sensible,
exactement.
Qui t'accompagne partout, c'est le stagiaire de l'aventure.
Okay. Et ben, il est la seule qu'il avait manqué, malheureusement, c'était pour le dragon, enfin heureusement je pense qu'il serait mort.
Ok, donc il y a Grim, juste noter leur nom, très ouais. Rapidement, il y a Grim ton frère.
Ouais, Grim.
Il y a ensuite.
Ensuite il y a Rorak.
Le garde du corps.
Le garde du corps qui est un orque.
Oh, alors je croyais qu'il y avait une haine séculaire entre les nains et les orques.
Et oui, non, après ils ont un sens de l'honneur qui est très très développé.
C'est vrai, c'est une société
et partielle. Lui, je lui ai clairement sauvé la vie.
D'accord. Et donc un nain vraiment hors du commun, hein. Généreux, qui sauve des orques.
Ouais, mais en fait ça rejoint un peu le background qu'on avait cité.
Qui ne tue pas des dragons, c'est trop bizarre.
L'anti-nain.
L'anti-nain.
Non, mais lui en fait j'ai un peu sauvé la vie, mais j'avais pas trop le choix en termes de. Pour mon alignement, en fait. Je suis bon, je suis gentil en fait.
Ouais.
Et lui, clairement, en fait, c'était l'orque qui possédait le marteau, le fameux.
Ah, c'est le. Ah, mais c'est super dangereux d'avoir
C'est toi. Super dangereux.
C'est en mode Frodon Gollum là. Hein.
Exactement. Exactement, mais en fait, quand j'ai vu qu'il allait se faire exécuter, je me suis dit non. Et j'ai vu qu'il avait vu que j'avais le marteau, qu'il a rien dit.
Il m'a regardé, j'ai regardé.
J'ai regardé. Bref,
il a sauvé un orque.
Il y a quelque chose qui. Quelque chose s'est passé entre nous, eye contact.
Oh, d'accord.
Non, je rigole. C'est pas ce que je veux, okay. Mon verso.
Okay. Mais c'est de moins en moins un nain classique. Hein.
Donc du coup, sauvage de mise, parce que je l'ai empêché de se faire exécuter. J'ai ordonné à ce qu'on ne l'exécute pas et qu'on l'épargne. Donc voilà, c'est l'or qui m'accompagne. Alors, je sais pas jusqu'où ira sa loyauté. Je sais pas si un jour, dans mon sommeil, il va pas me m'étriper et prendre la masse et se barrer.
Mais il est parfait, ce joueur, pour AMD. Il nous dit, j'ai un frère qui fait des conneries, j'ai un garde du corps qui veut me tuer. Et continue, hein. Ok. Ensuite, j'ai hâte de voir ce qu'ils font les comptables.
Non, les comptables, ils sont cool. Okay. C'est un couple.
Ah, c'est bon.
Et j'ai pas compris juste pourquoi tu l'as sauvé, l'orque.
Parce qu'en fait, il est innocent, lui. En fait, lui, il attaquait croyant qu'on lui avait volé son arme magique, le trésor du dragon, etc. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, c'est moi qui avais pillé son trésor. Et j'ai voulu le sauver parce que je voulais pas que les humains l'exécutent pour rien.
Alors,
lui, il voulait juste récupérer son bien, en fait.
Je précise aux auditeurs que s'ils se perdent dans la liste déjà très longue des PNJ,
ouais.
Il y aura un petit répertoire de 14 pages en lien dans la vidéo. Regardez. C'est pas vrai.
Interro lors de la prochaine session de la Wall Street.
Ok, alors dis-moi juste le nom du couple et puis après, on va voir ce que tu fais parce que là, il faut que l'aventure avance. Vas-y.
Oui, c'est Greta et Bob.
Greta... Ok. Greta et Bob. Bob le nain.
Bob le nain.
D'accord. C'est bien. Alors, et eux, ils sont donc convoyeurs de fonds / comptables / couple mignon.
Ben ouais, c'est un couple un peu cliché. Ils disputent tout le temps, mais ils sont très rigolos.
Et ils sont chacun sur un chariot, alors.
Ils sont chacun sur un chariot et...
Ils volent un peu dans la caisse.
Et par contre, non... De quoi ?
Ils volent un peu dans la caisse.
Ouais, clairement, clairement, je sais... Qu'ils se servent dans la caisse.
Moi j'ai dit ça comme ça, mais c'est parfait, les gardes du corps qui veulent te tuer, le mec qui garde ton or qui te vole.
Non, mais je sais que c'est insignifiant à l'échelle de la, on va dire, de la fortune.
Et puis c'est des nains, quoi.
Je laisse faire, c'est des nains, pas non plus. Hein. Mais par contre, ils sont d'une loyauté assez rare,
d'accord.
Pour le coup.
Bah, ils te volent un peu,
mais ils ont conscience que tu ne jamais un pigeon comme toi.
C'est un peu de l'endonnant. Disons que voilà, pour le peu qu'ils me volent par rapport à la fortune que ça représente et par rapport surtout à ce qu'ils me font gagner en bons conseils, bons investissements, etc. Ça vaut largement le coup.
D'accord, ok. Ils sont combattants ou pas?
Alors, Greta, oui, mais pas Bob.
Ah, ok. D'accord. Ils sont... Alors, Greta, elle est badass. Et bah, le garde du corps, il doit être combattant aussi, je pense.
Il est extrêmement puissant. Non, vraiment. Ouais, il est beaucoup plus fort que moi.
Ah non, non, on se calme. On verra. Ok. Okay. On verra, on verra. Ok, mais je note quand même. Il est bon. Il est bon.
Il est bon, il est bon.
Ok, à qui tu veux parler?
Bah, moi, j'aurais aimé aller voir Guzon aussi.
Et bah, c'est pas grave. Vous, ça a duré très peu de temps.
Ouais. Ah oui, oui. Hein. Ok. Voilà. Bah, le temps de voir ses 6 yeux et voilà quoi.
Ok. Alors, tu abandonnes un petit peu ta troupe et tu vois de nouveau ce Guzon. Qui peine, qui est un peu essoufflé.
Bah, c'est pour ça en fait que je vais le voir et je lui demande qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il prend pas une monture, quelque chose. C'est son souhait de rester en galère derrière ou il est vraiment en galère?
Il dit quelle sollicitude, ça me touche beaucoup. Ne vous inquiétez pas, j'ai roulé ma bosse un peu partout, j'ai l'habitude des sentiers un peu périlleux.
Ouais, bah après je lui dis que je connais son peuple hein, en vrai, parce qu'on l'avait fait léger, tu te rappelles au début.
Ouais, tu connais bien.
Donc, je sais qu'ils sont vus d'un mauvais œil, mais après je dis peut-être que si j'en touche deux mots comment il s'appelle, Dendari.
Ah, il dit, non, ne vous préoccupez pas, Dendari est un homme d'honneur, je le respecte beaucoup, ne vous inquiétez pas.
Il veut pas une monture mécanique?
Non, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous dites que vous connaissez mon peuple, je connais le vôtre, et vous savez comment les réputations parfois sont peu méritées.
Bah oui, je sais très bien, oui.
Donc non, ne vous inquiétez pas, Maître Nain.
D'accord.
Maître Nain, allez votre chemin, dans l'or, la chance.
Il sait pour la chance. Ben merci, et vous dans la malchance du coup.
Oui.
Peuple maudit.
Vous avez la chance peut-être de voir un jour le bout du chemin.
Peut-être. Qui sait?
C'est une menace, genre le bout du tunnel?
Non, je pense pas. Je prends pas mal en tout cas. Bon okay. Bah du coup je le laisse en galère, hein, tant pis.
Venez me voir ce soir, on jouera de la musique.
Ah bah volontiers.
Qu'est-ce que tu veux avec sa musique?
J'ai de l'alcool, on va se mettre bien. Bonne bière.
Super.
Des bières naines.
Il dit super.
Ça pue du cul.
Alors, vous continuez sur votre route, il se passe une nuit, justement.
Ah.
Première nuit dans le désert miroitant. La température chute brutalement, mais la nuit n'est pas totale, n'est pas parfaite. Pas à cause du ciel étoilé, que nous on connaît bien dans le désert, hein, mais à cause, en fait, il y a une lueur persistante, comme un coucher de soleil indéfini, infini, à cause des étoiles errantes qui passent parfois plus ou moins près du campement.
D'accord. Et du coup, les soleils qu'on voyait dans les structures métalliques, ils ont disparu?
Non, ils sont toujours là, comme je dis, ils sont à l'horizon. Ils vont, ils viennent.
Et pourquoi il fait nuit, du coup? Je comprends pas.
Le soleil se couche, le vrai soleil.
Ah, il y a le vrai soleil aussi. Oui, j'ai oublié le vrai soleil.
Il y a le vrai soleil.
Oui, j'ai oublié le vrai soleil, pardon.
Il y a encore le vrai soleil, même s'il a failli disparaître, si Tibalt s'en souvient. Il y a encore le vrai soleil. Donc, quand le soleil se couche, il fait nuit, mais c'est pas une nuit totale à cause de ces astres artificiels qui sont quand même beaucoup plus petits.
Ça doit être trop beau.
C'est très beau. Surtout que vous voyez qu'ils ont plein de couleurs et de tailles différentes et de vitesses différentes.
J'adore.
Et Dendari, à chaque fois, il manœuvre la caravane. Il fait des grands gestes. Il observe vraiment son boulot de maître de caravane, c'est d'observer le mouvement des soleils. Il les anticipe très bien. Et il vous fait les contourner ou les éviter. Et il y a des tours de garde, ses fils se relaient pour observer ces soleils-là. Et normalement, vous passez la nuit à un endroit où vous ne devriez pas être dérangé. Mais il vous a prévenu, Dendari, quand il vous dit de partir, vous partez le plus vite possible. Et vous laissez l'or derrière, si besoin.
derrière.
Que le mouvement est chaotique, ou on a pu déterminer un tracé du mouvement de tout ce soleil.
Tu pourras interroger Dendari sur ce point. Tu veux le faire dans la soirée?
Allez.
Ouais, bah il te dit qu'il les connaît tous par leur nom.
Les soleils.
Ouais. Ils ont un petit nom dans la langue Aberrat, hein, qui à chaque fois, c'est une espèce d'adjectif qui les décrit. Et il dit qu'ils sont très différents et qu'ils ont des effets magiques chacun, qui sont assez variables. La plupart sont comme des boules de feu très dangereuses, mais il dit qu'il y en a d'autres qui ont des effets très différents. Certains peuvent être un plus pour une expédition. Il faut savoir les connaître, les reconnaître. Mais il faut se méfier parce que malheureusement, il y a un coup d'œil. Et parfois, on peut confondre deux soleils qui sont d'un éclat assez voisin. On peut croire que c'est un soleil énorme, très très loin, alors qu'en fait, c'est un soleil très petit, du même éclat, qui arrive dans cette direction, et qui peut être parfois très très... Alors, je donne des exemples. C'est très compliqué. Donc tu vois qu'il a une science vraiment de... Et effectivement, sans lui, vous ne pourriez pas traverser. Vous auriez droit à la catastrophe, probablement. Enfin, peut-être pas seul, mais un groupe aussi large de personnes, vous ne pourriez pas manœuvrer votre route tout seul, tu penses.
Mais d'autant qu'il est dirigeable, en plus. Ça doit être compliqué à manœuvrer, ça.
Et oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est sa principale inquiétude à Dendari. Il voudrait surtout pas voir un soleil se balader au milieu de tout ça.
Je sens qu'on va se prendre un lac sur la tronche.
Oh, la shower, mon gars.
Ok, la soirée se passe. Vous mangez divers lézards grillés, j'imagine, autour du feu. Il y a au loin une musique un peu sinistre qui retentit. Il y a un petit feu de camp séparé derrière où il y a Guzon qui joue un peu de musique. Dendari, vous voyez, il écoute, il crache par terre. Il les déteste, il dit oiseau de malheur.
Voilà, ouais. Superstitieux.
Il y a Odelin qui entretient Odei. Odei n'arrête pas de se vanter du Tal'Dor. Il dit le Tal'Dor, c'est quand même le pays de la civilisation. C'est pas comme ici. Regardez-moi ça. Voilà, bref. Et donc Odelin essaye de lui répondre en étant la plus spirituelle possible pour détendre l'atmosphère, parce qu'il est de plus en plus insultant envers les Aberrats de l'expédition. Donc il y a cette espèce de discussion qui se met en place. Il y a le docteur Khartoum qui apparemment est occupé à panser une foulure que s'est faite Ropena, la fille de Dendari, en crapahutant à gauche à droite comme d'habitude. Et Miniature qui bouquine dans un coin. Toi aussi, tu as un livre d'ailleurs. Mm. Tu peux essayer de le lire à la lueur du feu, c'est pas facile. Tu vas un peu t'abîmer les yeux. Tu veux...
Ouais, je peux le commencer. Ouais.
Ok. Dedans, il y a un indice du fait que c'est peut-être un livre qui a une certaine valeur parce que ça recoupe des informations que tu as toi-même de ton côté. Tu l'as dit en prenant ton personnage, tu as des informateurs qui te tiennent au courant de l'état de certains objets magiques légendaires. Parce que ces objets t'inquiètent. Tu as l'intuition que ces objets sont instables, hein, et que ce qu'ils donnent, ils peuvent le reprendre. Et comme tu le soupçonnes, et comme des bruits te sont parvenus, semblent l'affirmer, la source de l'eau qui jaillit de la ville d'Ozim, c'est en fait un objet magique d'une extrême puissance, une pierre. Une pierre qui serait tombée du ciel, et qui aurait la propriété de déverser une eau continuellement, une source inépuisable, qui est là depuis des siècles. Et c'est cette eau qui a permis à cette ville impossible de naître en plein désert. Et toi, du coup, ça confirme tes soupçons que peut-être, tout simplement, la magie de la pierre dysfonctionne de plus en plus.
Ou qu'on l'a fait dysfonctionner.
C'est pas ce que laissent entendre les sages de l'émeraude dans ce pierre. Alors, les sages de l'émeraude, apparemment, c'est des spécialistes, justement, des pierres magiques. Mmh. Celle-là, okay. C'est un des exemples les plus connus, hein, celle de Ozim, donc c'est leur théorie. Ils disent que la magie de la pierre, c'est pas qu'elle risque de s'arrêter. C'est pas ça le risque. En fait, c'est un objet d'une très grande puissance. Pour l'instant, elle a une puissance qui est uniquement positive, mais elle pourrait avoir un effet contraire, c'est-à-dire qu'elle pourrait tout d'un coup compenser l'eau qu'elle a donnée par un autre effet magique terrifiant. C'est des mots un peu cryptiques que tu as, mais en gros, toi, ce que tu supposes, c'est que la pierre commence à dysfonctionner, genre elle n'est plus fonctionnée. Mais là, ce que disent les sages de l'émeraude, je ne sais pas si ça vaut le coup de les écouter, et après tout, avec une chance sur quatre pour que ce soit vrai, c'est qu'en fait, il y a une sorte de malédiction, si tu veux, une espèce de prix, tout d'un coup, qui est demandé par l'artefact.
J'ai envie de dire que si l'eau est, d'une certaine façon, la source de vie, peut-être qu'elle pourrait répandre la mort.
Oh, peut-être.
Donc... Mais si elle a un prix, il sera le mien.
Il a un accent nain, maintenant. C'était pas mal comme phrase, c'était assez classe. Ok, donc tu continues à lire
Oui, je continue.
Tu continues à lire.
Jusqu'à ce que j'ai sommeil, je vais pas non plus me priver de dormir.
Alors, il parle de l'actuel roi d'Ozim, parce que Ozim est une royauté, parce que il n'a pas encore été abordé ici. Il y a le roi Molk III qui règne sur Ozim. Et la prophétie des sages de l'émeraude qu'il y a dans ton bouquin, c'est que un jour, un roi, et peut-être le roi Molk est-il ce roi, abusera des pouvoirs de la pierre, et que la pierre, sa magie bienfaitrice, en sera perturbée.
Merde.
Ouais.
Il a trop tiré sur la pierre.
Ou alors qu'il en fera un usage contraire à sa destination. C'est ça que...
Il a fait du Perrier.
C'est une grande pub Perrier. Voilà, ouais, c'est notre sponsor. Voilà. Voilà ce que tu lis.
Ok. Mais il n'est pas précisé de quel roi il s'agit.
Il cite le roi actuel, le roi Molk. Ils disent que c'est un roi qui a deux grands défauts, c'est dit de façon cryptique. Premièrement, c'est un roi qui veut le pouvoir absolument, qui veut régner sur cette ville d'Ozim et utiliser sa position stratégique pour en tirer un grand bénéfice. Et c'est un roi qui n'a d'amour que pour un seul être humain, et pour le reste aucun. Il a énormément d'amour pour sa fille, Hydra. Et ce grand déséquilibre dans cet être pourrait amener la pierre à déchoir. C'est un peu mystérieux, c'est un peu cryptique. Voilà ce que tu dis. Je sais pas si c'est vrai. C'est peut-être vrai dans une autre réalité. C'est les bouquins de miniatures.
Actuellement, qu'est-ce qu'on sait au sujet de sa fille? Est-ce qu'elle est pas en mauvaise santé? Est-ce qu'elle va bien?
Toi, tu sais rien. J'ai jamais entendu parler d'elle.
Ok.
Malheureusement, Ozim est trop lointaine pour que tu en saches autant. Par contre, peut-être que des gens dans l'expédition en savent plus. Malheureusement, t'as bouquiné toute la soirée. Alors, pour les autres, qu'est-ce que vous faites?
Moi, comme promis, je vais voir notre ami Guzon.
Très bien. Et toi aussi, Caroline, ou pas?
Je reste en retrait et j'observe Guzon de loin.
De loin dans la nuit, tu verras pas grand chose.
En fait, mon objectif, c'est d'attendre le moment où il sera seul pour l'assassiner, hein, je te le dis clairement.
Ah, d'accord.
Wow. Bah, c'est... Bah, moi, c'est important, chaque jour, je dois tuer quelqu'un, en fait. Hein.
Ouais,
lui, il a 6 yeux, clairement.
Je préfère
que
ce soit pas moi, quoi.
Ok, bah, malheureusement, quand tu t'approches de lui, messager de la mort que tu es, il y a un témoin un peu gênant qui est Luck, qui est venu écouter un peu de sa musique.
Bah ouais, bière, musique, on y va, quoi.
Okay,
et mon frère, je pense aussi. Hein.
Alors, il se passe un truc un peu étrange, il joue, et il joue par juste quelques notes mélancoliques. Il a sa cithare, hein, vous imaginez, hein, une espèce de grosse guitare en travers de ses jambes, il est accroupi en tailleur. Il joue, il est très absorbé dans sa musique, très concentré, il a une grande émotion. Mais c'est toujours des émotions qui étreignent le cœur, des émotions qui assèchent un petit peu l'âme, quelque chose de triste et de regrettable. Vraiment, c'est beau, mais c'est pas agréable à écouter.
Ouais.
Alors, il joue, et il y a un effet un peu étrange, il joue de plus en plus de notes, et parfois, t'as l'impression qu'il y a peut-être plus d'une main qui court sur les cordes, des choses comme ça. Donc, tu commences à avoir un peu peur. Et là, il se met à chanter. Est-ce que tu écoutes les chansons de Guzon?
Après, je connais un peu le background hein, du Gus. Hein. Bon, alors, je suis quand même au Laker, hein. Mais je suis un peu superstitieux quand même.
Ouais.
Et j'aurais pas envie qu'il me refile sa malédiction, en fait.
D'accord.
Quelque
chose qui t'inquiète, c'est que t'as amené ta nourriture avec toi.
Hein.
Et nourriture, tu y jettes un oeil, elle grouille d'asticots.
Ok, génial.
Attends, qu'est-ce qui grouille d'asticots, là?
La bouffe que j'ai amenée pour qu'on mange tranquille au coin du feu. Waouh. Non, mais là, je mets un coup d'épaule à mon frère pour qu'il nous fasse un truc genre...
Ah, il est à côté de toi?
Ouais. J'ai dit qu'il allait venir, c'était sûr, il me suit partout. Hein.
Ok, d'accord.
Je mets un coup d'épaule genre en mode, fais un truc, histoire qu'on fait une diversion, il faut qu'on se barre, quoi.
Ok.
Parce que je veux pas non plus vexer Guzon.
Ouais. Bah, tu t'en vas et de toute façon,
il est dans son truc, quoi.
Il y a beaucoup de monde, là, ou pas?
Non, maintenant, il est tout seul, Guzon, et il continue de jouer, mais la musique meurt petit à petit.
Ok, très bien. Il y a... Pas de visibilité ou c'est mieux que je l'amène ailleurs en vrai?
Alors, toi, tu as un pouvoir particulier pour tuer en toute discrétion, de toute façon. À condition qu'il soit désarmé.
Ok, bah...
Tu fais ça?
Ouais, je fais carrément ça, je sors ma rapière.
Ok. 2d6 plus dextérité.
Yes. 8.
8 en tout?
Ouais.
Donc, tu choisis quoi comme option?
Ah ouais, alors j'ai soit personne ne me soupçonne, soit la cible meurt tout de suite, soit faire porter les soupçons sur quelqu'un d'autre. Je mets la cible meurt tout de suite, je pense.
Et donc, il y aura des soupçons sur toi?
Eh oui.
A priori, ça veut dire. Les gens te soupçonneront. Parce que tu seras éloigné par exemple.
De toute façon, je t'ai vu.
Ils feront le compte.
Bah, voilà. Alors, je l'ai croisé. Enfin, je sais pas, moi je suis parti, non?
Elle est tellement rapide. En fait, c'est
un pouvoir, c'est imperceptible.
Donc, tu as juste un soupçon.
Ok.
En fait, ça te paraîtra très étrange, mais tu vas te dire, lui, il est bizarre, quoi. Il s'est passé quelque chose et.
C'est pas grave, j'essaierai de convaincre qu'il a essayé d'attenter à la.
Bon, ouais. Et ben, tu fais appel en toi au pouvoir de la mort. C'est la mort elle-même qui t'a donné ses pouvoirs terrifiants.
Yes.
Tu peux donner la mort avec une facilité, une rapidité extraordinaire. Tu t'approches de lui, tu frappes, tu vois au ralenti ses doigts frapper les cordes, tu vois, il tire une dernière fois une corde et tu poignardes, t'enfonces dans son corps immédiatement et il s'effondre. Et là, il se passe quelque chose de très étrange. Toi, tu reviens immédiatement, très vite, hein, ça se passe en moins d'une seconde, tout ça. C'était une rapidité surnaturelle. C'est ça ton pouvoir. Tu le tues, et en fait, tu vois un truc très bizarre. Tu vois son corps qui s'effondre, et tu vois un autre qui se prend sa place.
What? Ben, j'essaie de buter le deuxième.
Tu en tues un deuxième, et en fait, c'est comme s'ils étaient accrochés l'un à l'autre, ils tombent par terre, mais ils sont reliés les uns aux autres d'une façon que tu ne comprends pas très bien. Et Guzon se tourne vers toi, comme ça, doucement.
Et
il dit nous sommes encore très nombreux, vous allez vous arrêter quand?
Attends, mais il est insolent en plus, ce petit con là.
C'est génial.
Attends, mais attends, je réfléchis deux secondes.
Ah bah deux secondes, c'est deux fois plus de temps qu'il y a un temps faux. Donc là, tu repars. Si tu restes sur place, là, ça va commencer à paraître étrange.
Mais déjà, en plus, moi, il faut que je quitte quelqu'un parce que sinon, je vais commencer à sentir le vieux pourri là.
T'as le sentiment que tu as accompli ta mission?
J'ai arrêté de me décomposer là. J'en ai tué un. Mais par contre, bon, après ça c'était un autre problème.
Il est pas tout seul, comme je le disais.
Ok, attends, mais c'est quoi? Attends, non, mais moi je.
C'est bien,
okay.
C'est bien pour farmer ton truc.
J'arrête d'être offensif et je vais lui parler. Attends, comment je fais pour forcer le truc déjà là?
985. C'est bon, j'ai fait.
Ok, alors ce qui se passe, moi j'interprète le résultat de ce qui se passe. Donc tu t'es jeté sur lui, tu as tué deux fois, tu l'as tué deux fois.
Ouais.
Mais c'est très bizarre, il a l'air de se reposer ou il y a plusieurs, c'est très très étrange.
Et je lui dis, mais qui êtes-vous?
Alors, ça va se passer, il va t'expliquer, il va te parler. On verra ça au prochain épisode. Mais sache que comme tu as eu seulement une semi-réussite sur ton jet, toutes tes discussions Locke y assiste sans que tu t'en aperçoives.
Ok.
On verra ça au prochain épisode.